Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On va tous se rappeler l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, un attentat, ça va faire 5 ans, qui a fait 6 morts et 5 blessés. On a vu beaucoup de réactions dans les jours qui ont suivi. Et il y a toujours 2 questions qui reviennent tout le temps. Qu'est-ce que ça a changé sur le court terme, sur le moyen terme? Puis est-ce qu'on a, depuis ce temps-là, tiré un certain nombre de leçons? Je vais faire le point avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour.
Bon début de journée, M. Arcan.
Je sais que vous allez prendre la parole demain. C'est une cérémonie virtuelle en raison du contexte. Qu'est-ce que vous avez l'intention de dire?
Mais je pense que la première chose, c'est de nommer la peine et de reconnaître les victimes. Celles qui sont parties, les orphelins qui restent, les gens autour, les familles, les amis. C'est pas vrai que tout le monde a cicatrisé. C'est pas vrai que ces commémorations-là ne sont pas souhaitées par les familles. Mais même si elles sont souhaitées, ça les ramène quand même dans la douleur. Il y a ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ça ramène ces vives émotions, cette tragédie. C'est de prendre soin de ces gens-là puis de leur dire que même si le temps a passé, on n'oubliera pas. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est de se rappeler aussi qu'à travers les victimes, il y a aussi un paquet de victimes collatérales, des premiers répondants, des employés de la ville, des gens qui sont venus prêter main forte et qui ont aussi gardé des souvenirs très, très douloureux. Et c'est aussi de dire à ces gens-là, ben vous faites partie de cette communauté dans laquelle on vit et qui doit ne jamais oublier, mais surtout apprendre pour plus que ça se répète.
À l'époque, sauf erreur, vous étiez PDG de Centraide Québec là, pour...
Oui.
Quel a été votre rôle? D'abord, comment vous l'avez appris, cet événement-là? Puis qu'est-ce que vous avez fait par la suite?
Je suis chez moi ce soir-là. Là, on se souvient que ça arrive Le soir aux alentours de 7h30, 8h. Les premières notifications d'application de mémoire, c'était le soleil. Là, je reçois cette notification-là. Et sur le coup, c'est la totale incrédulité. Et là, j'allume la télévision, les réseaux en continu pour apprendre qu'est-ce qui se passe. Et on apprend au compte-goutte à travers les heures pendant de nombreuses heures. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce qui continue de se dérouler? Qu'est-ce qui arrive avec l'assaillant? Et cette incrédulité-là fait place à la fois à de la peine, à de la colère, à comment on réagit à ça. Et après, dans mon rôle à Centraide, parce que moi, j'habite pas très loin de la mosquée, là, j'habite peut-être, je l'ai pas calculé, mais 600 mètres maximum. Après, ben c'est l'onde de choc, parce qu'on connaît tous quelqu'un, on connaît le fils de ce professeur d'université, on connaît un ami, on connaît un groupe communautaire qui intervient. Et comme j'étais à Centraide, ben c'est comment on va faire, nous, pour être un de ces maillons ou de ces maillons qui va faire en sorte de retisser des liens, parce qu'à travers cette espèce de grande roche atomique qui tombe à l'eau, qui crée des vagues et des vagues à n'en plus finir. Comment on va faire pour panser ces plaies-là? Comment on va faire pour aider? Comment on va faire pour parler de vivre ensemble et faire en sorte qu'on ne se divise pas? Hein? Parce qu'il y a toujours ça derrière ce type d'événement-là. Ça ravive des plaies, ça ravive ce qui n'est pas réglé, c'est que ça ravive cette idée de dire, ben l'autre, est-ce qu'il est différent? Est-ce que qui est l'autre? Cette distance entre lui et moi. Et moi, j'ai eu la chance de gens qui m'ont donné des mots, parce que je pense que les mots sont importants. Et cette phrase de Saint-Exupéry a toujours été un phare pour moi. Quand Saint-Exupéry dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis », je pense qu'il faut la porter très profondément dans son cœur, parce que, comme citoyen, on a un rôle à jouer.
Quand un drame comme celui-là arrive, on sent évidemment la solidarité qui se tisse. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après... 5 ans après, quelle lecture vous faites maintenant des relations là, de ce fameux « vivre ensemble dans la communauté » ?
Bien, on ne souhaite pas ça pour que ça arrive. Je pense que cet événement traumatisant a permis de tisser de meilleurs liens. Est-ce que c'est fini? Certainement pas. Est-ce que Québec a passé par-dessus, puis on peut dire « victoire, jamais ». Le vivre ensemble, c'est un défi. Il y a des gens qui voient dans la différence quelque chose qui nous éloigne. C'est drôle, hein? Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup. on réclame à grands cris que des gens viennent nous prêter main forte parce qu'on en a besoin de notre économie, nos entreprises, nos restaurants, l'ensemble de notre économie qui souffre du manque de personnel. Ben, faut pas oublier que ces gens-là, là, c'est pas des robots, là, c'est pas un trou, une cheville, c'est des humains qui viennent ici, c'est des humains qui viennent contribuer à notre vie, à notre économie, à notre vie sociale, à notre vie humaine. Et leur différence, il faut arrêter de la voir comme quelque chose qui nous éloigne, il faut la voir comme quelque chose qui nous permet de passer à travers les défis. Leur force vive nous amène à être meilleurs. Et ce message-là, Québec l'a vécu, Québec continue de le vivre, c'est un défi, et on continue d'avoir à attaquer ce défi-là. Mais je pense, par les actions qui ont été posées, pensons à Boufadja Ben Abdallah, un des cofondateurs de la mosquée, pensons à des mots qui ont été portés par des politiciens à l'époque, par des acteurs, des gens des groupes communautaires, je pense qu'il y a eu, il me semble, des avancées à ce niveau-là depuis 5 ans. En même temps, ne soyons pas flagorneurs, il reste beaucoup de chemin à faire, il reste beaucoup de travail à faire, et c'est pour ça que le devoir de mémoire est aussi important. Pas juste pour ça, se souvenir qu'il y a des victimes et des gens qui vivent encore avec ça, mais aussi se souvenir qu'on a du travail à faire.
Est-ce que, quand vous regardez le contexte actuel, là, 2 ans de pandémie, on sent que les citoyens sont à bout, là, ils sont... commence à avoir de la frustration puis de la colère avec ce mouvement de camionneurs, et qu'on entend des positions extrêmes. Quand on compare ce qu'on vit avec le sort des victimes de la Deuxième Guerre, l'Étoile jaune, quand on se compare avec les soldats qui font le débarquement de Normandie, c'est qu'on a l'impression parfois là, que tout se mêle puis qu'on perd la perspective puis qu'on banalise.
Ouais, puis c'est facile quand on est dans un moment de faiblesse, dans un moment de fragilité, penser que ce qu'on vit, là, c'est ce que l'humanité a vécu de pire. C'est facile par cette guerre de l'épithète, là, cette guerre de la comparaison, de se dire, puis vous avez raison de le soulever, là, moi je suis comme les Juifs lors de l'Holocauste, ou je suis comme tel groupe arabe, tel groupe de tel pays qui a vécu telle oppression. Je pense que ça mérite un peu de perspective, là. Je pense que ça mérite qu'on se rappelle que oui, notre souffrance, c'est la nôtre, puis elle n'est pas comparable à celle des autres, mais en même temps, dans cette pandémie-là, il y a beaucoup de gens fragiles, on a besoin de serrer les coudes, c'est comme ça qu'on va passer à travers, on en a tous plein le dos, mais c'est pas vrai qu'on peut ramener ça à des événements historiques qui ont marqué l'humanité. Dans notre cas, cet événement-là en est un qui a marqué notre ville, qui a marqué le Québec. C'est pas vrai qu'on peut comparer ça, c'est pas vrai que c'est des comparables. Maintenant, ça enlève rien à la souffrance que les gens vivent, ça enlève rien au déséquilibre dans lequel ils peuvent se retrouver, et ce n'est pas pour le banaliser, mais choisissons les bons mots, c'est important.
Monsieur Marchand, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Bruno Marchand, maire de Québec. Et donc, demain, ce sera la journée pour se souvenir. Et je rappelle qu'il y aura une cérémonie virtuelle. Monsieur Marchand va prendre la parole. Le premier ministre Legault et d'autres proches, évidemment, des victimes, par exemple, des survivants. Tout ça, 5 ans plus tard. Sylvain Caron, le directeur du SPVM, propose de fusionner certains postes de police, donc d'en réduire le nombre, afin de mieux déployer des policiers sur le territoire. Les politiciens et politiciennes ont dit « faut pas que ça se fasse ». La mairesse Valérie Plante a dit « il n'en est pas question ». Et aussi, tout ça arrive alors qu'on est encore avec une série d'événements violents. Je pense en fin de semaine à Montréal-Nord, des coups de feu, des gens blessés par balles. Et ce matin, le Journal de Montréal, entre autres, qui parle d'à peu près 2000 armes qui se promènent sur le territoire, espèce de filière de la Pennsylvanie, d'à quoi assassiner. Et puis ça arrive à Montréal, par les Irlandais qui distribuent, disent-ils, à des gangs de rue. M. Caron est avec nous ce matin. Bonjour, M. Caron.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais commencer par les armes d'abord, si vous voulez. Quand vous lisez ce matin qu'il y a au moins 2000 armes en circulation, que ça passe par ce corridor que je viens de décrire, est-ce que c'est conforme à ce que vous savez?
Ben, écoutez, c'est peut-être pas exactement la même information que je possède. C'est sûr qu'en termes de quantité, c'est assez préoccupant, mais quand vous voyez qu'on saisit 675 armes, exemple illégal l'année passée en 2021. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait beaucoup d'armes actuellement en circulation. On le constate depuis plus de deux ans. Alors, est-ce que la filière est intégrale comme qui est décrit dans le journal? Ça arrive souvent par livraison, par morceaux, de façon différente. Alors, il y a plusieurs façons d'approvisionnement peut se produire selon les informations qu'on a. Alors oui, ça peut être une filière, mais ce n'est pas la seule, je crois, qui existe actuellement.
OK. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un groupe du crime organisé qui a la mainmise sur les armes illégales plus qu'un autre groupe?
L'information ne nous permet pas de dire qu'il y a un seul groupe. C'est des crimes d'opportunité, c'est du trafic d'armes d'opportunité. Alors, plusieurs souches peuvent être impliquées dans le trafic d'armes pour permettre à nos gens de la rue d'avoir des armes.
L'autre question que j'ai envie de vous poser, avec toutes les armes qui ont été saisies, si on avait à faire une espèce de portrait, c'est des armes de poing, c'est des armes automatiques, c'est des armes illégales, qu'est-ce que vous saisissez?
Dans la majorité des cas, c'est des pistolets, des armes de poing qui sont saisies de façon exceptionnelle, des armes semi-automatiques et automatiques.
Quand vous examinez les différents cas, il y a eu principalement des jeunes là, qui ont été blessés par balles, qu'est-ce qui vous frappe? Y a-t-il des points communs, des gens connus, pas connus, un contexte d'une prise de bec, d'une banalité que, bref, on tire pour rien?
Bien, actuellement, il y a de plusieurs situations qui sont différentes d'une situation à l'autre, évidemment. Il y a des gens criminalisés qui s'en prennent entre eux. Ça, c'est un groupe de gens actuellement qui sévit sur le territoire. Tu as les jeunes qu'on voit qui utilisent des armes. Alors, la banalisation des armes, on le voit même à 14, 15, 16 ans. Alors, les phénomènes sont différents des situations qui se produisent malheureusement sur le territoire. La banalisation est assez présente. Alors, on décide de régler des comptes avec des armes à feu aujourd'hui, alors qu'avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on utilisait des poings, les mains.
Oui. Mais est-ce que vous avez, puis là, je veux pas de secret d'enquête, là, mais du nouveau sur les différents meurtres qui ont été commis, tous ces jeunes qui ont été assassinés, avez-vous trouvé qui se cache derrière ça? Si vous aviez à faire une espèce de bilan des enquêtes?
Mais les enquêtes sont très actives actuellement. Toutes les enquêtes sont actives. Il y a beaucoup d'éléments à vérifier, à regarder. Puis l'exemple qu'on a, c'est la semaine passée, on a arrêté un gars à Sudbury, en Ontario, pour un événement de mai 2021. Ça prend du temps, ça prend des expertises, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à nos enquêteurs pour être capables d'arriver à solutionner nos crimes. Alors, faut laisser le temps à nos enquêteurs de travailler. Mais actuellement, je suis confiant, dans les prochains mois, on aura des résultats dans plusieurs dossiers.
OK. Parlons maintenant de la fusion des postes de quartier, de certains postes de quartier. Vous avez fait une proposition sur la place publique. Là, vous voulez réduire de quoi? 4 le nombre de postes?
Ah, pas tout à fait. Exactement, ce qu'on veut faire, c'est une réflexion. On est rendu 25 ans, 26 ans plus tard. Il est normal et logique puis responsable de se questionner en tant que responsable de la sécurité publique. Est-ce encore la bonne façon de desservir les citoyens? On nous demande d'être plus près du citoyen, puis en même temps, il faut s'adapter à la nouvelle forme de criminalité. Depuis 25 ans, ça a changé. Alors, on se questionne, on va plus loin que juste les postes de quartier. On veut repenser notre offre de service globale. Puis pour ce faire, on commence des consultations. On a fait une consultation à l'interne sur les dysfonctionnements, puis comment se repositionner par rapport à l'île de Montréal. Là, maintenant, on s'en va rencontrer les maires des Villiers, on s'en va rencontrer les maires d'arrondissement, les partenaires. Alors, on veut faire une consultation. On veut pas seulement que le service de police décide. On veut que le projet soit un projet de tous les Montréalais, Montréalaises, pour qu'on repositionne l'organisation policière pour les 20 prochaines années.
Je vous cite, là, puis vous me direz si c'est ce que vous avez dit, là, que dans certains cas, les postes de quartier, ce sont pratiquement que des vestiaires pour les policiers.
Oui, malheureusement. On n'a pas beaucoup de capacité. On est partout sur le territoire, mais on n'a pas beaucoup de capacité à bien des endroits. Je suis allé sur le territoire encore en décembre. Puis, je rentre dans un poste de quartier une journée où j'ai 3-4 policiers qui travaillent alors que le territoire devrait demander une présence plus accrue. Alors, il y a une capacité qu'on veut retrouver, mais en même temps, j'entends qu'on s'est éloigné des citoyens avec les années, au cours des dernières années. Alors, il faut trouver une formule, une nouvelle façon de repenser. D'ailleurs, on fait un test actuellement avec un nouveau projet, l'équipe de concertation communautaire de rapprochement, qu'on a débuté en avril et en octobre. Avril dans le centre-ville, dans la zone du centre-ville, puis dans le nord-est, avec la zone du nord-est, avec une nouvelle approche avec nos policiers, policières à pied sur le territoire, à ne pas répondre à des appels, mais à s'occuper des problématiques locales. Alors, on essaie de repositionner l'organisation pour être meilleure puis être plus efficace pour respecter la capacité de payer des citoyens, parce que les coûts de sécurité publique depuis 20 ans ont explosé.
Je suis assez vieux pour avoir connu les grands postes de police où il y avait plusieurs policiers qui se déployaient sur un territoire. Est-ce que je me trompe si durant certains quarts de travail actuellement, avec la formule de ces postes de quartier, il n'est pas rare de voir un policier, une policière absente, congé parental, formation, et qu'on se retrouve avec un minimum de policiers. C'est pour ça qu'on doit faire appel à des patrouilleurs de d'autres secteurs.
Tout à fait. C'est la réalité qu'on vit actuellement depuis plusieurs années au service, compte tenu des changements qu'il y a eu. Alors, ce qu'on veut, c'est se redonner de la capacité, mais en même temps, se rapprocher du citoyen d'une autre façon.
Donc, fusionner des postes pour avoir plus de policiers faisant partie du même territoire qui est plus grand, mais d'un territoire unique, là.
ça pourrait être des fusions, ça pourrait être des redistributions. Alors, la formule idéale n'est pas encore trouvée, évidemment. On se donne le temps de faire des consultations, mais le statu quo n'est pas possible. Alors, on va aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord, dans les autres corps de police, en Europe. On va s'inspirer des meilleures pratiques, puis on va proposer quelque chose à la fin de l'année, cette année, à l'automne prochain, aux élus pour leur permettre de voir quels seraient les services de police des années qu'on a actuellement pour desservir la population montréalaise.
Vous savez, c'est pas à vous, je vais apprendre ça, là, que les politiciens sont frileux. Un maire ou une mairesse qui pourrait perdre un poste de quartier, là, c'est rarement gagnant pour eux autres. Là.
Ce qui est plus important d'avoir un poste, c'est d'avoir une présence policière continue à tous les jours. C'est là qu'il faut comprendre, évidemment. C'est un changement important, M. Arcand. Mais un changement, c'est quoi? C'est informer les gens, les accompagner. Alors, je pense qu'on a un grand rôle de communication à faire. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va tenir les citoyens puis les élus informés de notre avancement du projet.
Bon, il y a eu cette fusion, là, Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce. Est-ce que c'est vrai que le temps de réponse aux appels urgents a augmenté?
Les réponses aux appels, nous, ce qu'on appelle 1 et 2, qui est les appels urgents, c'est amélioré. Alors, on est un petit peu au-dessus de la moyenne sur le territoire montréalais au complet. Ce qui a perdu un peu, évidemment, puis on travaille cet aspect-là, c'est les appels moins urgents, appels avec rendez-vous. Alors, notre temps a augmenté d'environ une minute de déplacement. Alors, ce qu'on travaille à améliorer, évidemment, c'est un changement autant pour nos policiers que pour les citoyens. Alors, on travaille à améliorer notre temps de réponse sur les priorités non urgentes, sur les appels non urgents qui surviennent dans ce territoire-là.
Question, comme on dit, dans l'air du temps, vous aviez combien de policiers là, qui ne travaillent pas actuellement parce qu'ils ont la COVID, soit qu'ils sont en confinement, donc touchés par un effet de la pandémie?
Ben, la pandémie, seulement que la pandémie, je dirais présentement, selon les rapports que j'ai eus hier, c'est environ 240 policiers.
C'est quand même pas mal de monde.
Ben, c'est beaucoup. C'était un peu plus corsé que ça, je vous dirais, dans le temps des fêtes. Alors là, on sent une petite accalmie, évidemment. On retrouve une certaine normalité. On souhaite que tous reviennent, évidemment, en santé. Alors, on suit ça de façon quotidienne pour s'assurer de bien servir la population sur l'île de Montréal.
M. Caron, merci. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Sylvain Caron est le directeur du service de police de la ville de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Alors, nous sommes en pleine campagne de sensibilisation sur la démence. C'est un sujet qui est un peu tabou. Je regarde d'ailleurs les données là, d'un sondage qui a été fait. 60% des Canadiens qui craignent d'avoir un tel diagnostic. 46%, pratiquement la moitié des gens qui ne seront pas à l'aise d'interagir avec une personne atteinte de démence. François Morancy et le porte-parole de cette campagne, parce qu'il a perdu son père, qui souffrait d'Alzheimer, sa mère aussi, était atteinte de démence. François, bonjour.
Salut, Paul.
C'est vrai que c'est un sujet délicat. Il y a des causes où on se dit, bon, ben c'est peut-être plus facile de sensibiliser les gens, mais d'aborder un sujet comme ça, je sais pas, j'ai toujours vu ça comme une espèce de malaise.
Ben c'est un malaise parce que c'est comme assez récent, évidemment, les gens vivent de plus en plus longtemps. Le corps vieillit, le cerveau vieillit, mais il y a des trucs qu'on peut guérir, avec lesquels on peut dealer plus facilement, mais les problèmes neurocognitifs, ben on se rend compte qu'en vieillissant, qu'en allongeant l'espérance de vie, ben c'est sûr que c'est de plus en plus commun. Mes parents, c'est un bon exemple. Mes parents, moi, étaient vraiment top shape physiquement, mentalement, jusqu'à 87-88. Il avait déjà dépassé l'espérance de vie statistique, mais c'est là que ça a chuté pour eux au niveau mental et physique aussi, mais mental essentiellement. Puis mes frères, ma sœur et moi, on n'avait pas vu ça venir, on l'avait même pas considéré comme étant un scénario possible. On se disait, OK, si rendu à cet âge-là, t'es correct, ben tu vas t'en tirer, puis tu vas mourir doucement dans ton sommeil, tu sais. Donc ça explique, je pense, en partie pourquoi les gens sont mal à l'aise.
Et quand on est le fils ou la fille d'une personne qui souffre de démence, puis qu'on est confronté donc avec cette perte de contact avec la réalité, puis c'est tout un enjeu. Comment avec les autres membres de ta famille, vous avez géré ça?
On a appris sur le tas, parce qu'on n'avait pas vu venir. C'est une des raisons pour lesquelles je m'implique dans la campagne, c'est pour peut-être dire aux gens de ne pas faire l'erreur qu'on a fait. C'est-à-dire que si vous avez des parents, des grands-parents qui arrivent à cet âge-là, peut-être d'évoquer le sujet de « OK, si ça arrive, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? » Et deux, qu'est-ce qu'on va faire techniquement? Parce que quand ça arrive, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pratico-pratique. Je vais vous expliquer que dans le cas de mes parents, moi, ça a été des cas assez lourds. Il n'y avait plus aucune autonomie. Donc, il fallait qu'on les gère vraiment comme tu gères un enfant, finalement, là, tu sais, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont mangés? Est-ce qu'ils sont au chaud? Est-ce que tout est planifié? Puis, il y a une gestion émotive, évidemment, difficile de voir. C'est moi, dans le cas de mon père, moi qui étais le typique mâle alpha père pourvoyeur que j'ai jamais vu être vulnérable dans sa vie, qui là en arrive à un point où il n'est même pas l'ombre de ce qu'il était. C'est sûr qu'il y a une gestion émotive à faire de ça qui n'est pas évidente. Fait que pour tout ça, tu apprends sur le tas, je te dirais. Pour le côté pratico-pratique, ben je dirais ayez une discussion en famille, de dire mettons que ça arrive comme ce qui nous est arrivé à nous. Quand on a eu un appel de mon père étant en résidence, puis OK, là, il fait de l'errance, on ne peut plus le garder. Mais là, tu fais quoi? T'as ton père, là, il va rester où? Qui va s'en occuper? Est-ce qu'il va avoir quelqu'un avec lui à tous les jours? C'est des questions. Nous, par chance, on est quatre enfants qui s'entendent super bien, fait qu'on a pu se diviser les tâches. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait qu'un peu de planification à cet égard-là. C'est pas des discussions le fun à avoir, hein, j'en suis bien conscient. Mais comme le dit le proverbe, bon, t'espères le meilleur, tu prévois le pire. Mais je tiens à préciser aussi que dans le cas de la démence, c'est pas tous les gens qui le vivent aussi intensément que nous, on l'a vécu. Il arrive évidemment des cas où, au premier stade, les gens peuvent être quand même fonctionnels, peuvent avoir une autonomie, peuvent travailler, avoir une vie sociale, familiale. C'est d'éviter qu'on stigmatise ces gens-là en se disant que, OK, aussitôt qu'ils tombent là-dedans, ils sont coupés de la vie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de la majorité.
Dans le cas de tes parents, est-ce que, je sais que ton père est décédé en 2019, ta mère un peu plus tard, est-ce que les deux ont souffert en même temps d'Alzheimer et de démence?
Oui. Pour expliquer aux gens, les gens mélangent les deux mots. La démence, c'est comme le terme générique. L'Alzheimer, c'est la forme la plus répandue de démence. Donc, okay. C'est à peu près 70 % des cas. Mais il y a plusieurs autres types de démence. Ma mère, c'est ce qu'on appelle une démence vasculaire. Elle avait du diabète. Elle a eu une grosse chute de glycémie, quasiment coma diabétique. Des cellules du cerveau ont été endommagées. Évidemment, ça se ne régénère pas. Donc, quand elle est revenue de ça, elle n'était plus la même personne. Donc, tout ça pour dire que oui, ça a été en même temps. Les deux sont arrivés en même temps. C'était deux diagnostics différents, deux façons de dealer avec différentes. Mon père, avec l'Alzheimer, il y avait des moments de totale lucidité. Donc, oui, il était confus par moment, puis deux heures après, oups, il était tout là à 100 %. Ce qui était très cruel, c'est que dans ces moments de lucidité, il se rendait compte qu'il était confus là, deux heures avant. Fait qu'il était lui-même témoin, si tu veux, de sa propre débarque. Là. Fait que ça rendait ça encore plus difficile de le voir lui-même dealer avec ça, puis voir l'inévitable qui se pointait.
Mais on a une image, puis tu me corrigeras si c'est pas ça, mais c'est comme si nos parents nous avaient élevés. On était dépendants d'eux, enfants, bébés. Puis arrive ce moment-là où c'est comme le changement de garde, où on apprend soin de nos parents comme s'ils étaient des bébés.
C'est 100 % ça. T'es carrément dessus. On est devenus leurs parents. On a géré 100 % de leur vie. Leur santé, leurs finances. Moi, j'ai un de mes frères qui est actuaire. Il a ramassé toutes les finances. Après ça, on a géré où est-ce qu'ils allaient habiter. Les relations avec les travailleurs sociaux qui sont venus les évaluer pour voir où est-ce qu'ils devaient être placés. De s'assurer que quand ma mère est en CHSLD, qu'elle avait des vêtements propres, qu'elle manquait de rien, que tu deviens vraiment comme quand tu as un enfant, puis qu'à tout moment du jour ou de la nuit, c'est OK, il est-tu correct, il est où? Il n'est pas avec moi, OK, mais il est-tu au chaud, il a-tu besoin de quelque chose? Vraiment, tu deviens leur parent. C'est le retour du boomerang, là, en même temps. S'il y a deux humains pour qui j'étais prêt à faire ça, c'est bien eux autres, puisqu'ils l'ont fait pour moi, là. Mais c'est effectivement ça qui arrive. Tu deviens leur parent.
J'allais dire, est-ce que tes parents ont pu écouter ta série, Discussion avec mes parents? J'imagine que tu leur avais parlé du projet, mais est-ce qu'ils ont pu voir les épisodes?
Ils ont vu, mais ils ne comprenaient pas, dans le sens que mes parents ont été témoins de quasiment tous mes succès jusqu'à là. Ils ont été témoins du succès du livre qui a précédé la série. Mais quand on est arrivé en onde, je me rappelle, un de mes frères avait mis mon père devant la télé pour écouter la série, puis il me reconnaissait. Il disait, ah, c'est François. Mais il ne comprenait pas qu'il y avait un deuxième niveau, qu'on illustrait la famille, évidemment exagérée, puis en comédie, mais il n'a pas pu profiter de ça. Donc non, ils n'ont pas pu. C'est ça qui est le seul nuage dans ce merveilleux projet-là qui est extraordinairement satisfaisant à plein d'égards. C'est un succès incroyable, mais le nuage, c'est que les deux personnes qui auraient normalement dû le plus en profiter ou le plus absorber le succès puis s'en faire parler, c'est les deux seuls qui n'ont pas pu le faire, malheureusement.
J'allais dire, qu'est-ce que cette épreuve a changé en toi? Qu'est-ce qui a été peut-être... Je sais pas, tu sors d'une expérience comme celle-là, il me semble qu'il y a des changements qui s'opèrent, peut-être de valeur, peut-être des inquiétudes sur sa propre santé. Comment ça t'a transformé?
Ben, j'étais déjà quelqu'un qui faisait attention à lui. Je le suis encore plus maintenant parce que, bon, c'est pas un secret, hein, c'est pour le cerveau ou pour le corps, c'est la même technique, hein, c'est de faire attention à soi, puis d'être actif, puis... Il y a encore une étude qui est sortie, je pense, la semaine dernière, qui montrait que les gens actifs physiquement, bien, ça fait que les connexions avec les neurones du cerveau demeurent bonnes plus longtemps. Ça fait que c'est la base, là, donc je fais encore plus attention, mais je suis très conscient que ça peut m'arriver quand même, moi aussi. Ça fait en sorte que tu profites encore plus du moment présent, dans le sens que tu dis, OK, ça peut être, tout peut bien aller, puis ça peut être un immense ciel bleu, mais paf, il y a un orage qui arrive, puis là, tu deals avec. Donc, c'est un peu... t'essaies de vivre dans le moment, t'essaies de prévoir, mais en même temps, tu te dis, OK, il y a une limite à ce que je peux prévoir. Il y a une limite à être dans l'inquiétude tout le temps aussi, tu sais. Puis tu prends de la maturité, puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'énervaient qui ne valent pas la peine de t'énerver. Tu te rends compte qu'il y a des affaires plus importantes dans la vie, puis ouais, tu focuses là-dessus. Donc, tu deviens, je pense, un meilleur être humain aussi à travers tout ça, là, plus empathique. Ça fait en sorte, regarde, que je fais cette campagne-là puis que je me suis informé davantage pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ça fait qu'à quelque part, tout ça, tu essaies de trouver le bon dans tout ça. Là,
ben, bravo, François, d'être porte-parole de cette campagne, pour pouvoir passer l'information, diffuser le message. Puis très gentil à toi d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, Paul. T'es très gentil. À bientôt. Bye.
À bientôt. François Morancy, je rappelle, vous le connaissez, mais il est aussi donc le porte-parole de cette campagne de sensibilisation nationale sur la démence, lancée par l'Agence de la santé publique du Canada.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
7h58, l'important dans des opérations comme ça, quand on parle de mesures de vaccination, c'est d'obtenir l'adhésion. Et Québec l'a reconnu cette semaine, il y a une perte, on le voit dans les sondages, mais on l'entend autour de soi, des gens qui sont moins convaincus de la pertinence de toutes ces mesures-là. Il y a eu ces annonces avec, bon, pour les restaurants, pour le sport, mais ça se fait de façon graduelle. Et donc, est-ce qu'il y a encore une adhésion? Puis comment les Québécois vont se comporter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais en parler avec Dr Mélissa Généreux, qui est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Dr Généreux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mesuré depuis le début un peu, je dirais, le niveau d'anxiété des Québécois, comment les Québécois se comportent. Comment ça a évolué d'abord?
Bien que ça, dans le sens que, évidemment, on a eu un pic d'anxiété, dépression, je dirais, autour de la vague 2, là, tu sais, à l'hiver dernier. Probablement que si on le remesurait aujourd'hui, on aurait le même niveau. Là. Il y a une combinaison d'effets saisonniers et de mesures sanitaires très intenses, de restrictions et tout ça. Mais je dirais qu'il y a eu une petite amélioration à l'automne, à l'été d'automne 2021, sans qu'on ait évidemment rejoint des niveaux qu'on avait avant la pandémie, qui étaient déjà, à mon avis, assez élevés là, en termes d'anxiété et dépression.
Mais là, l'hiver, on est puis ça s'étire un peu, puis il y a des gens qui... Puis là, je pense à des parents qui gèrent les enfants à l'école, les éclosions, les quarantaines, milieu de travail. C'est une facture lourde.
Ah oui, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il fait tellement froid en plus. Ça peut paraître banal, mais ce n'est pas tant que ça. Hein. Les températures très froides font en sorte que la liberté qu'on a, c'est de vraiment faire des activités extérieures. Et même ça, ça devient un petit peu plus difficile par les temps qui courent. Donc, vivement, les températures un peu plus clémentes. Mais oui, là, je vous cacherai pas, pour les parents et aussi les jeunes étudiants, on le voit beaucoup, là, c'est très difficile, toutes ces adaptations-là. Puis cet effet-là de yo-yo un peu, là, de vous avez une liberté, oups, on la perd, on la regagne, on ne sait pas si on va la perdre plus tard. Donc, cette instabilité-là est très difficile pour la population.
Quel conseil vous pourriez donner au gouvernement pour justement peut-être calmer le jeu, faire baisser le niveau de stress?
Bien, je pense qu'on a commencé à en parler un petit peu plus ces temps-ci, d'avoir une prévisibilité. C'est un des grands principes d'ailleurs que l'Organisation mondiale de la santé clame, là, qu'une communication ou toute forme de politique ou initiative en contexte de pandémie doivent être le plus prévisible possible malgré la grande imprévisibilité à laquelle on fait face. Donc, d'annoncer un plan, de montrer où est-ce qu'on s'en va, quels sont les indicateurs qui vont être pris en considération. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance de manière à ce que les gens soient capables de voir venir un peu plus et qu'on n'ait pas l'effet surprise lorsqu'on regarde la conférence de presse? Parce que moi-même, je dois avouer qu'à chaque conférence de presse, j'ai aucune idée de ce qui va être annoncé. Malgré ma connaissance de tous ces indicateurs-là, je suis pas capable de dire exactement vers quel bord on va pencher en termes de mesures. Donc, c'est très instabilisant, encore une fois, pour la population. Et ça pourrait calmer le stress, l'anxiété et même la façon de comprendre un petit peu pourquoi on adhère à certaines mesures ou pas.
Bon, Québec va présenter un projet de loi pour imposer une contribution santé additionnelle pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a tout un débat, il y a différentes catégories de non-vaccinés. Êtes-vous en mesure de nous dire qui sont les non-vaccinés au Québec en termes de profil, de portrait?
Oui, bien c'est sûr que c'est un portrait du mieux qu'on peut avec les meilleures données disponibles de notre côté, mais on a quand même sondé là, des milliers de Québécois en octobre. Et donc en octobre, on était déjà à l'époque où tout le monde avait eu la chance d'avoir ses deux doses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur le 10% des gens qui n'avaient pas encore reçu leurs deux doses, premièrement, tous ne sont pas complotistes. Il y a vraiment deux profils. Il y a les gens avec une vision quand même très complotiste, avec une grande, grande méfiance envers le gouvernement. Souvent des gens un petit peu plus de droite, des gens qui affirment moins fort ne pas adhérer aux mesures sanitaires. Donc, ces gens-là, on peut penser que ça va être un petit peu plus difficile dans leur propension à vouloir changer d'idée au sujet de la vaccination. Ça risque d'être plus difficile. Alors qu'on a l'autre tiers des non-vaccinés qui n'ont pas du tout de vision complotiste, qui ont une méfiance, oui, mais je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, qui sont plus ouverts à s'informer des sources formelles. Donc, à mon avis, il y a beaucoup plus de cheminement qu'on peut faire en tout respect, en toute bienveillance, là, pour essayer de les amener à s'assurer qu'ils aient la bonne information pour prendre la meilleure décision qui les concerne.
Puis dans le cas des complotistes, là, j'imagine, je vous dis ça au hasard un peu, là, mais ce sont des hommes principalement ou c'est autant de femmes?
Un petit peu plus d'hommes. Dans le fond, dans les non-vaccinés avec vision complotiste, dans notre étude du moins, là, c'est 56% qui sont des hommes, donc un petit peu plus que le 50% qu'on a dans la population. Mais quand même, moi, je pense que je retiens qu'il y a aussi 44% qui sont des femmes. Donc, au même titre qu'on a beaucoup de jeunes, 36% de moins de 35 ans. Mais d'un autre côté, on a quand même presque les deux tiers qui sont âgés d'au-dessus de 35 ans. Donc, finalement, il existe plusieurs portraits différents. Et je veux quand même aussi souligner que là, j'ai parlé de deux profils avec et sans vision complotiste. Mais ça, c'est parmi les gens qui ont répondu à notre enquête. Donc, évidemment, ça fait exclusion de tous les non-vaccinés qui sont un peu plus en marge de la société, problèmes d'itinérance ou de grande vulnérabilité, qui font en sorte que ces gens-là, évidemment, ne sont même pas comptabiliser dans nos statistiques parce que probablement qu'ils ne répondent pas à ce type d'enquête-là.
Ce que je comprends de votre intervention, c'est que, et puis on le sait, on a un taux de vaccination très élevé au Québec, là, deux doses, puis la troisième dose, puis même les enfants, bon, il y a un peu de retard, mais ça va être bien difficile de convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés de se faire vacciner.
Mais en fait, moi, je pense que de convaincre, c'est déjà peut-être pas la bonne cible. Donc, d'écouter, de parler, de dialoguer, de s'adapter à leur rythme, un peu comme ce qu'on fait en médecine. Si on a un patient tumeur, si dans son stade de changement, il n'est pas du tout prêt à changer, on peut tout simplement lui dire qu'on est ouvert à en parler puis s'assurer qu'il appuie sa décision sur les bonnes sources. Mais ça sert à rien d'essayer de le convaincre. Il va se sentir stigmatisé, pris dans un coin, puis ça risque d'alimenter sa méfiance ou sa fermeture au changement. Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'on va partir de des gens qui sont peut-être un petit peu plus prêts, là, qui hésitent, qui ont réfléchi, qui ont probablement... sont tombés sur des mauvais sites, des mauvaises conversations qui ont alimenté un peu leur peur quant au vaccin, entre autres, et voir avec ces personnes-là à dialoguer, leur faire exprimer leurs craintes, leurs préoccupations. Et je pense que c'est la bonne voie pour leur montrer qu'ils sont importants pour nous, qu'on est à l'écoute de leur réalité besoin, puis ensuite leur offrir un peu plus d'informations ou de services pour les aider à faire le bon choix.
Merci, Dr. Généreux. Bonne journée. Dr. Mélissa Généreux, qui est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, pardon.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Attention, les prochaines minutes peuvent être déterminantes pour l'humeur de votre journée. Nous préférons vous en avertir.
Oui, c'est les folies du vendredi.
Ah, vendredi est arrivé,
Oui.
Enfin.
Écoute, c'est-tu Marie-Louise Arsenault ou Paul Arcand qui anime? Parce que quand Fabien est là, je vous mélange parce qu'on rappelle que Marie-Louise a lancé Fabien.
Quand même.
J'avais fait rien d'autre pendant ces semaines-là, c'est ça qui arrive. Hein?
Donc, c'est pas Marie-Louise, là. C'est
non. Non, c'est moi-même.
Parle donc un peu, voir.
Air fryer.
Oh, c'est
notre
pote. 10 $, moi.
9h09.
Ça, c'est mon pote.
Ça, c'est comme mon code pour rentrer dans le studio.
Non, mais cette affaire-là de air fryer, moi, matin, Paul, j'avais quasiment peur que tu sois pas là. Là. Je me suis dit, il fait une heure, c'est friteuse à air. Il va donner son nom au magazine Protégez-vous. Il va faire des enquêtes, ses machines à compost, puis sur les clippers qui pognent pas dans l'eczéma.
D'abord, c'était pas prévu, hein?
Je sais bien, Paul,
t'sais, mais
une friteuse, pas d'huile, là, bon. C'est un séchoir. Faire une heure sur un séchoir à patates. Tu ramollis, Paul.
Je t'ai dit, c'est plus de Paul qu'on avait.
Je le sais.
Il est disparu. Non, mais...
Il y a une vraie question, hein?
Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Mais ça fait plaisir aux gens. Les gens ont besoin d'une certaine forme d'exutoire. Oui,
tout à fait. Mais c'est quand même pour ça, moi, Paul, que je me suis dit... T'sais, tu peux te reposer en fin de semaine là, puis retrouver ta personnalité parce que je vais être là, moi, bon. Pour être ce phare qui éclaire les coins sombres de notre actualité. Parce que, écoute, je t'écoutais le 18 janvier et j'ai entendu Anne Casabonne s'enquérir de ton niveau de circoncision. Et c'est sûr qu'entre une toast au beurre de peanut puis une gorgée de smoothies, fraises, bananes, on s'attend pas à être obligé de s'imaginer si ta maman t'a déjà demandé « Paul, as-tu bien nettoyé en dessous de ta petite peau? » C'est sûr que aussi la question de Mme Casabonne, ça a propulsé la circoncision dans l'actualité et ça a peut-être amené certains hommes à se questionner. Hein. Je suis pas circoncis, que faire? Bon, là, à moins que vous soyez toujours en train de vous empêcher un morceau entre deux mailles de zipper. Il n'y a rien qui presse. OK? C'est la circoncision, c'est comme la vasectomie. Ça se magasine pas comme un vieux barbecue sur Marketplace. Et quand quelqu'un fait ça pas cher dans son sous-sol, en dessous de la table, on y va pas. Mais sans farce, mais c'est ça, Paul, qui m'a donné envie de mener cette grande enquête-là sociologique, oui, sur ce sujet, oui, mais sur les internets. Donc, ceci dit, il faut s'assurer d'avoir bien digéré quand on tape circoncision sur Google. Il y a des photos puis des dessins. Là, le cœur me battait dans le frein. Mais... Non, mais j'ai fouillé. Puis en août, l'an dernier, il y a le Journal de Montréal qui nous apprenait qu'aux Philippines, après une pause en 2020 à cause du coronavirus, il y avait le retour de la saison de la circoncision. C'est un rite de passage à l'âge adulte. Oui, il y a une saison. C'est pour les jeunes adolescents. Bon, j'accueille les coutumes de l'ailleurs sans jugement, mais... plus de chances que je me risque à faire du fat bike dans Charlevoix que d'aller aux Philippines dans la saison des circoncisions. Tu sais, moi, je suis plus saison des sucres. Bon. Et tu sais, pour le fun, vous demanderez à votre ado, aimes-tu mieux te faire enlever ton petit flacataire qui pend sur le bout ou tremper la palette? Vous aurez votre réponse.
Posez la question, c'est y répondre. Oui.
Il y a le Courrier international, lui, qui nous dit que le Soudan du Sud cherche 1,5 million d'hommes à circoncire.
Oh boy.
1,5 million d'hommes de 15 à 49 ans. Mon conseil à l'Office du tourisme du Soudan du Sud, mettez pas ça dans votre brochure. Ça veut dire que je suis encore éligible. Là. Je veux bien découvrir les coutumes des autres quand je vais en voyage. La corrida en Espagne, les gondoles à Venise, mais revenir du Soudan du Sud en marchant comme une girafe qui boit de l'eau. L'avion est pas décollé, que le petit sac de poids congelé, il est déjà tout mollasson. Ça va chauffer rendu à Yule. Il y a aussi dans le Dakar Actu qu'on lit la... Oui, j'ai cherché pour vrai. La grande circoncision appelée Grand Jojo est de retour à Kolda après une période d'accalmie à cause de la COVID-19. 200 enfants à qui on enlèvera le petit surplus. Et c'est le maire, Abdoulaye Bibi Baldé, qui a été choisi comme parrain de l'événement. Bon, ça, c'est comme si à Saguenay, il y a quelques années, il avait organisé une circoncision de groupe à l'achat d'une paire de billets pour la fabuleuse. Faites-vous circoncire dans la petite Maison Blanche. Et là, t'as le maire, Jean Tremblay, qui est là comme parrain. Go, go, go! Enlève-y ça, là! Faites ce bout-là, là! Ça dépasse, là! Comme moi ça, là! Comme moi ça, là! Et pépé! Hurra! Non, mais c'est que à Kolda, là, les gens, ils sont heureux du retour de la grande circoncision. C'est une initiative de l'association Traditions et Coutumes. Encore là, on pourrait imaginer qu'ici, au festival Mémoire et Racines dans la Naudière, il y aurait la légende d'Yves Lambert. Entre deux sets de son spectacle La Joliette, il sort son opinel avec lequel il a tranché son bris dans l'loge. Il demande au gars de la bottine souriante d'y passer la petite planche sur laquelle il tape du pied, puis il dit « J'invite tous les gars de Saint-Ambroise puis de Saint-Ligory à soir, je vous décapsule toute la gang! » Et là, mais là, comme le dit le Yob, quand tu circoncis des adultes, les retards, ils sont plus grands. Notre Yves, il se ramasse avec une butte de petits bouts. Il amène ça au cercle des fermières. Pareil qu'ils ont fait une belle osse à charcoal. Mais... Alors, on remercie Anne Casabonne de nous avoir parlé de circoncision.
On l'avait oublié.
Mais on attend toujours ta réponse, mon Polo.
Et je veux dire, tout ça, ce que vous venez d'entendre, est parti de ce court moment qui ne devait pas être aussi marquant.
Oui, là, je sais, mais c'est parce que ça fait partie du secret médical. C'est comme si je vous demandais, êtes-vous circoncis? Ça n'a pas de bon sens. Non,
ça n'a pas de bon sens. On va s'arrêter pour la pause. Ouais.
Ça n'a pas de bout. C'est contagieux, la circoncision.
On ne sait jamais. Hein? Ça peut se jeter sur quelqu'un.
Ça? Hey, je suis contente d'être une femme, moi. Ouf.
Hey!
Ouf. Attraper ça en marchant sur la rue, ça.
T'arrives avec ton affaire qui pend, puis pop! C'est parti, tout d'un coup.
Ça n'a aucun sens. On revient après ça.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.